Yes, sur la Red Rock Station Vinyl Times Classic Rock Radio, les Dirty Chialets. Ça, c'est pas mal du tout. En tout cas, Dino Zedutic, la voix. Eh oui, la voix du mec, en tout cas, elle est juste sublime. Et George Lynch, là-dessus, il tape un solo digne des Under Allocant, qui, en tout cas, là, il a ressorti les doigts, en tout cas, c'est cool. Allez, en direct avec nous depuis Alger, comme chaque mardi soir, depuis de nombreuses semaines. Maintenant, Butch Rock. Butch, bonsoir.
Bonsoir, Rag. Bonsoir, tout le monde.
Ça va, tu vas bien?
Ça va,
et toi? Bon, top, cool. Alors là, tu pars sur un énorme morceau qui va durer plusieurs semaines, notamment.
Et là, c'est vraiment du lourd. Et en fait, c'est par le plus pur des hasards. J'étais en train d'écouter l'album du groupe The Circle, Space Between, sorti cette année. Je pense que tu l'as déjà écouté. Line-up fait rêver quand même. Hein. C'est Sammy Hagar au chant, Michael Anthony, ancien Von Halen, Vic Johnson, guitariste de Sammy Hagar, et enfin Jason Bonham, le fils du plus grand batteur de tous les temps, John Henry Bonham, Bonzo pour les intimes. Mais ce bon vieux Bonzo n'aurait pas eu ce statut sans son association avec les autres prodiges que sont James Patrick Page, John Paul Jones et enfin Robert Anthony Plant. Au tout début, c'était ainsi que Robert Plant présentait le groupe avant d'entamer le jazz psychédélique de How Many More Times, issu d'un premier album qu'ils ont torché en une trentaine d'heures. Un premier album d'une énergie jamais vue auparavant. Normal quelque part, c'était l'effet recherché. Donner à l'auditeur l'avant-goût de ce qu'est une prestation de Zeppelin sur scène. À partir de là, Led Zeppelin, en à peine une année, est devenu un véritable rouleau compresseur, managé de main de maître par Peter Grant, ancien videur, cascadeur, truand et catcheur. Il faisait quand même près de 2 mètres et pesait dans les 120 kilos, ce qui devait l'aider à négocier les contrats de ses poulains. Mais je ne vais pas en dire plus pour le moment. Avant de parler de Led Zeppelin, il faut d'abord parler des Yardbirds. En 66, Jimmy Page rejoint le groupe en tant que bassiste, après avoir refusé de tenir les guitares dans un premier temps, ne voulant pas faire un sale coup à Eric Clapton, qui était parti en vacances selon leur manager. En fait, en vacances voulait dire qu'il avait quitté le groupe. Pourquoi ? Les Yardbirds voulaient laisser tomber le blues et Jimmy refuse, mais propose à la place son ami d'enfance, un certain Jeff Beck. Dans un second temps, il deviendra finalement le second guitariste avec Beck, avant que ce dernier ne se fasse virer en novembre 66. En 68, les Yardbirds sombrent. Les tensions se faisant et le travail en studio ne suivant pas, les musiciens décident de partir en vacances. Jimmy devient seul maître à bord. Pour les quelques dates qu'il a honorées, Page doit trouver des musiciens, un chanteur et un batteur. Le bassiste Chris Dreja était quand même resté pendant un petit moment. Mais, et avec Peter Grant, le nouveau manager du groupe. Premier choix de Page s'appelle Terry Reid, mais il ne peut pas, car ayant signé un contrat en tant qu'artiste solo chez Mickey Most. Mais il lui conseille un ami, un certain Robert Plant. Le chanteur trouvé, Page doit chercher un bassiste parce que Chris Dreja décide d'arrêter la musique pour se consacrer à la photographie. D'ailleurs, la photo du premier album, c'est lui. Le premier nom qui lui vient à l'esprit est John Paul Jones pour la basse. Les deux ont en commun le fait d'être des musiciens de studio émérites. Page ne se souvient plus du nombre d'enregistrements qu'il a fait pour les autres. Mais on peut citer déjà With a Little Help of My Friends de Joe Cocker, La poupée qui fait nom de Michel Polnareff, You Really Got Me des Kings. Mais je vais m'arrêter là, sinon on va y passer la nuit. Pour Jones, je vous conseille juste d'écouter ses arrangements sur See the Rainbow des Stones. Vous m'en donnerez des nouvelles. Et bien sûr, Mellow Yellow de Donovan. C'est sur les conseils de Robert Plant que les membres des Yardbirds vont à la recherche de John Bonham, 20 ans, batteur grassement payé par Tim Rose, et qui est sur le point de rejoindre Joe Cocker. Dans sa tête, Bonham se dit qu'il gagne assez bien d'argent, assez bien sa vie comme ça, et qu'en plus, Joe Cocker lui tend ses bras gesticulant comme des tentacules. Donc, ce sera un non. Ce garçon, c'est un gars qui se faisait expulser des nightclubs parce qu'il jouait trop fort. Est-ce qu'il jouait trop fort? Bien sûr que non, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Les voilà enfin réunis. En septembre 68, le groupe se fait un petit tour de chauffe avec Train Kept a Rolling. Et là, c'est le coup de foudre, une alchimie d'une intensité à laquelle Page ne s'y attendait pas. Attendu, c'était pas attendu. Mais Paige est un peu emmerdé. Sa créature n'a plus rien à voir avec les Yardbirds. C'est Yardbirds qu'il voulait faire tourner. Puisque, justement, Peter Grant avait, Jimmy Page avait encore quelques dates à honorer, en Scandinavie, donc au Danemark, en Suède, et, en Finlande et en Norvège. Surtout en Norvège. Donc, il devait avoir les Yardbirds en tournée. Donc, renommer le groupe avant ce départ en Scandinavie n'est pas une très bonne idée non plus. Mais finalement, les Yardbirds partiront en tournée. Mais ils feront comprendre que ce groupe, c'est les New Yardbirds. Résultat des courses, la tournée est un succès qui a mis des étoiles dans les yeux du public. Les titres sont joués lourdement et puissamment. La setlist, c'est sympa en plus. Elle se composait de Train to Capture Rolling, Dazed and Confused, la version Yardbirds, bien sûr, White Summer, une instru de Jimmy Page, How Many More Times, I Can't Quit You Babe, une reprise de Willie Dixon, Babe Gonna Leave You, une reprise de John Baez, You Shook Me, qui a été aussi chantée par Moody Waters, et Communication Breakdown. Donc, pas la peine de rajouter le solo de Bonham, il y était inclus. On connaît la chanson. De retour au pays, bande veut enregistrer. Mais Page est fauché. Mais Peter Grant est là. Il accepte de partager les frais. Le groupe n'était encore... D'ailleurs, le groupe n'était même pas encore signé dans aucune maison de disques. C'était un groupe qui est, on va carrément le qualifier de vierge. Donc, dans cette optique, le groupe enregistre 10 chansons en moins de 36 heures. Alors que Page plante Jones et Bonham enregistre, Peter Grant leur trouve une maison de disques, et pas des moindres. Une des plus grosses maisons de disques de l'époque, Atlantic Records, qui laissera une liberté de création totale au groupe. Grant a dû faire une offre qu'Emmett Ertegun, ne pouvait pas refuser. Enfin, tu connais l'histoire. Quand Emmett 220 kilos parle, le groupe a donc un label, et pas des moindres, mais il lui reste à se trouver un nom. Parce que New Yardbirds, ça fait cheap et pas très inspiré, un peu comme les nanars de l'époque. Robert Plant propose au hasard les Mad Dogs. Oui, non, pour Jimmy Page, ce sera non, comme pour le reste du groupe. Et la Page se souvient d'une session d'enregistrement en 67, pour l'occasion. Il est parti aider Jeff Beck à enregistrer un single, le fameux Ex Bolero. À la batterie, il y avait Keith Moon, Nicky Hopkins au piano, et surprise, John Paul Jones à la basse. À la fin de la session, Page, Beck et Moon, justement, discutent sur le fait de pouvoir former un groupe qui s'appellerait Led Zeppelin. Pour le poste de bassiste, Moon allait ramener John Tadfinger Entwistle, son compère des Who. Les deux voulaient, à l'époque, quitter justement les Who. Il est prévu qu'ils chantent aussi. Mais, tout compte fait, valait mieux engager un chanteur. Donc, ils avaient pensé tout d'abord à Steve Winwood, mais qui était occupé avec Traffic. On leur a proposé par la suite Steve Marriott, mais qui a été très très vite déconseillé, vu sa mauvaise réputation. Donc, pourquoi ce nom, justement, les Zeppelin? À proposition de former ce super groupe, Keith Moon avait réagi. Nous allons nous cracher comme un Zeppelin de plomb. Un Led Zeppelin en VO. Page proposa d'enlever le A de Led pour une prononciation plus correcte et plus fluide aux États-Unis, et le tour était joué. Bon, finalement, tout ça ne se fera pas. Et une année plus tard, cette journée de septembre, octobre 68, Jimmy Page se dit, le groupe s'appellera Led Zeppelin. Page, justement, récupère toutes ses idées. D'ailleurs, c'est un expert. Mais on y reviendra dans un prochain épisode. Parce qu'aussi, ce qui fera de Led Zeppelin une légende, ce sera aussi un coup de poker. Est-ce que ça va être le coup gagnant? On le saura la semaine prochaine.
Yeah. La semaine prochaine, en tout cas. Merci, Butch, pour ce soir, pour cette première partie sur l'histoire de Led Zeppelin qui démarre ce soir. Je crois qu'on en a encore pour quelques bonnes semaines, en tout cas. Des anecdotes, des engueulades, des choses comme ça. Peter Grant, le manager, d'ailleurs, qui rentre avec la batte de baseball, etc. On va le savoir dans les semaines à venir.
Exactement. Et justement, voilà. La semaine prochaine, je vous donnerai, par exemple, la raison pour laquelle Rolling Stone Magazine avait détesté Led Zeppelin avait détesté les trois premiers albums de Led Zeppelin.
Eh ben écoute, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine à Bouge. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir, donc sur le 113 Rock, sur la radio web, sur la web Rock Station Vinyl Times, le Classic Rock Radio. On continue donc avec Led Zeppelin sur le 113 Rock, le Good Time and Bad Time sur le 113 Rock, extrait de l'album Mothership, choisi par toi-même, en tout cas, sur le 113 Rock. Merci encore Bouge. Merci Bouge. Ah, il est parti le pauvre. Allez, ciao, ciao. Allez,
ouais, ouais, je suis là.
J'ai cru que t'étais retourné aux toilettes. Allez, on continue avec Led Zeppelin sur 213 Rock, avec Melody Kama comme le son rock.
In her ear, I lost another friend. Oh.